Que peut-on prêcher à une génération qui n'a d'autre ambition que l'argent, la puissance et les plaisirs sensuels? Comment faut-il parler aux égoïstes, aux indifférents, à ceux qui vivent dans le désordre et l'impureté? Que faut-il dire à ceux qui sont imbus de leur savoir, arrogants et moqueurs, ou simplement à ceux que ronge l'angoisse et qui souffrent? Existe-t-il un thème, un message que le prédicateur puisse présenter à tout cela à la fois? Car il y a des chances pour qu'ils soient tous plus ou moins représentés dans un auditoire de moyenne importance. Savez-vous que c'est précisément le problème auquel l'apôtre Paul dut faire face lorsqu'il entra dans la célèbre ville de Corinthe? Capitale de la province romaine d'Achaïe, Corinthe était au 1er siècle la ville la plus importante de la Grèce. On pouvait y compter près de 700 000 habitants. Grâce à ses deux ports et à sa position stratégique à la croisée des grandes lignes commerciales, la ville était constamment en activité, envahie par les voyageurs et les commerçants venant de partout. Outre sa renommée commerciale, Corinthe était fière de ses écoles de rhétorique et de philosophie, et célèbre surtout par sa fabrication du bronze et de ses œuvres d'art. Comme on peut l'imaginer, cette prospérité engendrait le luxe et l'amour des plaisirs. Si Corinthe était l'une des villes les plus cosmopolites de l'Empire, elle était aussi la plus frivole et la plus dissolue. Soldats, marins, marchands venaient dilapider leur salaire, leurs soldes ou leurs bénéfices en menant joyeuse vie. Vivre à la Corinthienne était synonyme de vie de débauche. La religion elle-même, loin d'endiguer cette marée de passions et de vices, en faisait l'objet d'un culte, et dans le temple d'Aphrodite, gardienne de la cité, 1000 prêtresses étaient vouées à la prostitution sacrée. Voilà dans quel milieu l'apôtre du Christ allait prêcher l'Évangile. Mais quel message allait-il annoncer? Tous les éléments étaient réunis pour lui infliger un échec cuisant. Comment allait-il s'y prendre? Quel prodige oratoire allait-il déployer pour se faire entendre de cette ville corrompue? De quel trésor d'ingéniosité, de diplomatie et de philosophie allait-il se servir pour faire admettre son Jésus d'amour, son Christ de souffrance, le Sauveur des hommes? Paul répond lui-même à ces questions que nous nous posons. Après des mois de lutte, de prière, de travail, il se formera à Corinthe une communauté de chrétiens. Par son exemple, sa persévérance et son message, il parviendra à arracher à la vase du péché une poignée de convertis. C'est à eux, l'Église des Corinthiens, qu'il écrira deux lettres que préserve le Nouveau Testament. C'est dans la première de ces lettres qu'il rappelle son contact avec les habitants de la ville dissolue. « Pour moi, écrit-il avec une pointe de fierté et de défi, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le témoignage de Dieu avec le prestige de la parole ou de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Voilà donc sa recette pour l'évangélisation d'une forteresse de péché. Cela est assez inattendu. Il a donc délibérément écarté toute connaissance humaine et toute spéculation religieuse sans rapport direct avec le salut de l'homme par Jésus-Christ. Le Christ crucifié et ressuscité est le centre et la source du message de Paul. Toute la somme de la sagesse, de la science et de la raison humaine n'est rien à côté du message de la croix. Il le sait, il en est convaincu et il le proclame. On pense ici irrésistiblement à ce mot de Pascal « Humiliez-vous, raison impuissante » et à ce cri de victoire de l'apôtre Jean. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Paul était pourtant capable de rivaliser avec tous les plus grands philosophes et penseurs de son temps, et même avec les anciens que l'on citait déjà copieusement. Il aurait pu agréablement chatouiller les oreilles de ce peuple avide de connaissances et de beaux discours par des démonstrations d'art oratoire. Car quel intérêt pouvait donc avoir son Christ crucifié pour ce peuple matérialiste et jouisseur? Pourtant, c'est ce message-là qu'il a présenté. C'est cette croix qu'il a décidé de planter au milieu de la ville perdue. Pourquoi? Parce qu'il était convaincu que ce dont ce peuple avait besoin avant tout, ce dont le monde entier a besoin, c'est de connaître le Christ, sa croix, son message, son salut. Il y croyait de toutes ses forces, de toute sa vie et de tout son esprit. Pour la croix, dit-il lui-même, il a décidé de perdre tous les avantages matériels dont il était pourvu. Il aurait pu devenir un personnage éminent dans la société juive. Il était promis à un avenir brillant. Il avait tout pour réussir, Mais lorsque la croix du Christ s'est dressée en travers de son chemin, au lieu de l'écarter, il l'a embrassée, reconnaissant en elle et en sa victime le salut de sa vie, la raison d'être de son existence et l'espoir du monde. C'est pourquoi il dédaignait la philosophie humaine, ses raisonnements savants et arides. À ses yeux, le véritable objectif de tout homme n'est pas de connaître toujours davantage pour la satisfaction de savoir, c'est avant tout de connaître Dieu révélé en Christ. Dans le domaine de la pensée, le chrétien, au pied de la croix, connaît l'essentiel de ce qu'il faut connaître pendant son bref passage sur la terre. Non seulement a-t-il appris à vivre en suivant celui qui est le chemin, la vérité et la vie, mais il a aussi découvert une cause pour laquelle il vaut la peine de mourir. C'est pourquoi je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Votre prétendue sagesse est une folie. Avec vos raisonnements, vous perdez le sens. Vous vous imaginez trouver des lumières, mais vous enténébrez vos cœurs, car vous ne connaissez pas l'essentiel. Vous passez à côté de ce qui est primordial. Vous ne voyez pas ce qui est fondamental. Levez les yeux et découvrez tout cela dans la croix. Or, quel est ce message ? En quoi consiste cette prédication sur le thème du Christ crucifié ? Tout d'abord, la bonne nouvelle, paradoxalement, commence par une mauvaise nouvelle. Cette croix nous dit d'abord que nous sommes coupables. Ce sont nos péchés qui ont rendu cette croix nécessaire. Nous sommes tous coupables, sans exception. Même le plus moral d'entre nous, même le plus juste, le plus charitable d'entre nous. Il est primordial de le reconnaître. Mais dira-t-on, qu'est-ce que le péché ? N'est-ce pas une exagération de prédicateur que de dramatiser ainsi les défauts de l'homme ? N'est-il pas dramatique au contraire de minimiser la malédiction du péché ? Regardez ses effets. Ouvrez vos yeux, voyez l'ivrogne sur le trottoir, voyez ce foyer brisé, ses enfants battus, abandonnés, mal aimés. Voyez le trône de ce dictateur édifié sur les restes de ses victimes, érigé sur la dépouille de la liberté. Voyez nos champs de bataille, regardez ces visages qui passent. Que peut l'homme devant cet étalage de vices, de souffrances, de misère, de laideur et de menaces devant ce règne du péché ? Rien. Il ne peut rien, ou presque rien. C'est pourquoi la croix était nécessaire. C'est pourquoi la croix est le dernier espoir du monde. D'autre part, aucun homme ne peut se racheter lui-même. Le message de la croix souligne l'impossibilité des efforts de l'homme à cet égard. Vous ne pouvez effacer un seul de vos péchés par vous-même. Or, la Bible nous dit, et c'est encore Paul qui parle, le salaire du péché, c'est la mort. Mais quelqu'un est mort à votre place. Pourquoi ? Cela ne s'explique pas par la raison. Un seul mot décrit la scène entière qui comprend d'un côté l'humanité coupable et de l'autre la croix. Et ce mot, c'est amour. La croix révèle à l'homme un Dieu qui aime. Ce n'est pas le potentat insensible, le maître absolu qui domine, qui guette la faute pour punir et écraser. C'est le Père qui pardonne, qui a tant aimé le monde, nous dit l'apôtre Jean, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, que faut-il faire ? Si vous vous posez sincèrement cette question, vous pouvez entendre ce que le Christ lui-même commande. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais que vient faire le baptême dans la vie d'un homme ? L'apôtre Pierre nous dit qu'il constitue un engagement de la conscience envers Dieu, qu'il procure la rémission des péchés parce qu'il est l'expression de la foi et du repentir. Quant à l'apôtre Paul, il voit dans le baptême par immersion un rapport étroit avec la croix du Christ. C'est là que le croyant rencontre la croix et l'embrasse et l'accepte pour lui-même en s'unissant à sa victime. C'est là que le sauveur du monde devient le sauveur personnel du croyant. Il écrit à cet égard, « Ignorez-vous que baptisé dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, nous vivions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Un engagement pour la rémission des péchés, dans une vie nouvelle. Si parmi vous qui m'écoutez, il se trouve quelqu'un qui veut aujourd'hui même agir dans cette voie et prendre le vrai baptême, écrivez-nous et je puis vous promettre que nous prendrons aussi rapidement que possible les dispositions nécessaires pour répondre à vos questions pour vous aider, où que vous soyez.